Le contexte, c'est, vous savez, il y avait Judas, il y avait Israël. Le royaume de Judas s'est éloigné de Dieu, il y avait un roi terrible comme Manassé. C'est une époque, une des époques les plus sombres d'Israël. C'est une époque où on adorait le dieu Baal, une époque où l'on sacrifiait les enfants, les petits-enfants à Moloch. C'était un retour à toute l'idolâtrie. Et dans ce contexte-là, il y a cet enfant, Josias, qui est né et à 8 ans, il est devenu roi. Verset 1, il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David, son père. Et la deuxième année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux d'Akéra, des statues, des idoles de métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal, il abattit les obélisques qui étaient dessus, il brisa les poteaux d'Akéra, les statues, les idoles de métal fondu, il les réduisit en poussière, il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui avaient sacrifié. Il brûla les ossements des sacrificateurs sur leurs autels, c'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et jusqu'en Nephtali, parmi leurs ruines, tout alentour, il renversa les autels. Il mit en pièces les poteaux d'Akéra, les statues, les réduisit en poussière. Il abattit toutes les obélisques dans le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et le temple, il envoya Shepha, fils de Dastalialion, Masséyahou, chef de la ville, c'est très alsacien tout ça, hein, et Yoa, fils de Yosab, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Donc je passe un peu, donc il avait 26 ans, quand il a purifié le pays et qu'il a commencé à rétablir le temple. Hein. 26 ans, donc 8 ans roi, mais à 26 ans, c'est jeune tout ça. Je rappelle que la réforme en France est venue avec des jeunes aussi, de 24, 25 ans. Les catéchismes, les bases de la foi, catéchisme d'Aldelberg, etc., ce sont des jeunes de 24, 25 ans. Et la base de la doctrine est reposée encore des siècles dessus. Donc, on voit là, il y a quelque chose de très particulier. Donc, il a mis en place des chantres. Il a mis en place les travailleurs pour le bois, pour les charpentiers, etc. Verset 11, 12. Les Lévites, qui étaient d'habiles musiciens, ils supervisaient aussi les travaux. Comme quoi, Christophe, avec sa clarinette et puis ses instruments avant, il fait les travaux également. On peut être les deux. Hein. Et puis, nous avons, alors c'est le passage où je veux en venir, quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, verset 14. Le sacrificateur Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors Hilkia prit la parole et dit à Shéphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkia donna le livre à Shéphan et Shéphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur avait été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel en le ramenant entre les mains des responsables de ceux qui font l'ouvrage. Et Shéphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Puis Shéphan le lut devant le roi. Et lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et on voit qu'il y a un retour à Dieu pleinement chez le roi, qui avait pourtant depuis petit cherché Dieu. Mais la découverte de cette parole a changé beaucoup de choses, et c'était le début d'une réforme dans le pays. Il y a un exemple qui est donné par rapport à ce livre tellement précieux, et c'est un exemple qui est donné dans un dernier livre de Jeunesse en Mission, que je connaissais déjà, mais pas raconté ainsi. Un missionnaire est venu dans l'est de l'Himalaya et puis il va de village en village et parler, il dit voici le livre de la vie, voici le livre de Dieu. Et puis les gens, pas beaucoup de gens étaient intéressés, hein, mais une fois il y a quelqu'un à la fin qui a dit, mais moi ça m'intéresse, est-ce que c'est vraiment le livre de Dieu? Oui. Et il a dit, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ma tribu. Et il a raconté que ses ancêtres, les pères des pères des pères des pères, autrefois n'étaient pas de ce lieu-là. Ils étaient venus de l'ouest. Et ils avaient possession un livre, le livre de Dieu. Et ils l'avaient perdu dans les bourrasques de l'Himalaya quand ils ont traversé les cols enneigés. Et depuis, ils ne savaient plus comment vivre. Et une des membres de la tribu, quelques jours avant que ce missionnaire vienne, a eu un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu une personne dans tel village. Et Dieu lui dit, cette personne vous dira où est le livre. Et quand cet homme était sur la place de ce village, qui voit quelqu'un qui dit, voici le livre de Dieu. Alors tout d'un coup, bien sûr, ça fait tilt. Et il a dit, venez dans ma tribu. Il est venu dans cette tribu. Et bien sûr, le terrain était prêt pour des milliers de conversions. Parce qu'il y avait cette pensée du livre perdu, du livre de Dieu, qui nous apprenait comment vivre. Et en fait, pour Josias, c'était la même chose. C'est le livre qui nous montre comment vivre. Et dans tous les domaines. Alors, par rapport à ce Josias, juste, j'aimerais relever certains points ce matin avec vous. Et on ne va pas voir en détail ce texte qu'on a lu ce matin. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. Mais Josias nous montre plusieurs choses pour nous aujourd'hui, en 2012. En 2012, qu'est-ce que ce passage veut nous dire aujourd'hui ? Eh bien, donc, il a vécu le processus de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Il a cherché qui ça ? C'est pas l'Éternel seulement, mais le Dieu de David. D'accord ? Donc, il avait devant ses yeux un modèle. Il a eu dans l'histoire d'Israël le modèle de David. Et c'est le Dieu de David qu'il a cherché. Et parfois, et toujours même, on a besoin de modèles au milieu de nous. Moi, je veux trouver le Dieu de cet homme-là, le Dieu de cette femme-là. Parce que quand on voit sa vie, on a envie de connaître le Dieu qui est derrière. Et donc ça me touche beaucoup. Chercher le Dieu de David, voyez. C'est pas seulement l'Éternel, Créateur Tout-Puissant. Bien sûr que c'est ça aussi. Mais c'est aussi le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le Dieu de mon Père. Je veux le chercher. Et ça, c'est vraiment important, je crois, dans une réformation, de retrouver l'héritage des pères et de retrouver le Dieu de nos pères de la réforme, nos pères dans ce pays de France. Voilà, le déclenchement du réveil s'effectue quand la maison de l'Éternel est en train d'être préparée. Alors bien sûr, quand j'ai vu ce texte, je ne peux pas m'empêcher à voir où nous en sommes aujourd'hui. Les travaux d'ascenseur, les travaux dans ces salles, ça bosse. Il y a un travail au niveau du temple et physique. Tout ce qui se passe dans le physique, c'est aussi quelque chose qui se passe dans le spirituel. Les deux vont en même temps. Mais on voit que ce désir qu'il a eu de rebâtir la maison de Dieu, ça a précédé quelque chose de plus important qui était la nation entière. Et en fait, si Dieu veut qu'on bâtisse et rebâtisse une maison, c'est toujours en relation avec la nation. Et parce que le commandement de Jésus, c'est fait des nations des disciples. Alors bien sûr, on peut dire que c'est trop prétentieux. Bien sûr que ça commence par des individus, on est bien d'accord. Mais l'objectif de Dieu, c'est toujours la nation. Et parfois, il ne suffit pas d'un grand, grand nombre pour changer une nation. Mais il suffit d'un certain nombre. Un certain nombre. Et souvent, il y a des gens, des sociologues qui parlent du seuil de 10%, par exemple. En France, il y a 1%. Ce n'est pas énorme. Mais il semblerait qu'il y a un seuil où la nation peut être touchée. Donc, ça commence toujours par le désir de rebâtir la maison. Et là, je vous donne un exemple très clair. Alors, je prends un exemple dans l'histoire de l'Église, mais que vous connaissez peut-être, c'est Saint François d'Assise. C'était un jeune homme d'une famille très riche d'Italie, en Ombrie, famille marchande. Et il est de retour d'un voyage de France. Il a fait de très bonnes affaires dans ce pays de France. Et en hommage à ce pays qu'il a beaucoup aimé, son père l'a appelé Francesco. Hein, François, ça vient de France, son amour de la France. Alors, Francesco. Alors, Francesco, on en connaît d'autres aussi, hein. Francesco, il a vécu une vie de jeune, la fête, les sorties, etc. Et puis, dépensait beaucoup d'argent, parce qu'il avait assez riche. Et puis un jour, il rentre dans une chapelle, nous sommes en 1205, donc ça date, 1205. Il avait 23 ans. Il rentre dans une chapelle et il entend une voix qui lui dit, cette voix lui dit, « Répare mon église qui est en ruine. » C'est tout simplement ça. « Répare mon église qui est en ruine. » À cette époque, l'église était en ruine. Vous savez que c'était une des époques les plus sombres. Le 11e siècle, début 12e, c'est une des plus sombres de tout le christianisme. C'était ceux qui étaient soi-disant serviteurs de Dieu, c'était souvent tout le contraire. Et une époque où les papes en particulier vivaient souvent dans la débauche, etc. C'était vraiment des erreurs monumentales au niveau doctrinal, etc. Et Dieu dit à ce jeune, « Répare mon église. » Alors vous savez comment il a compris ça, lui ?« Répare mon église. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une truelle, il a dépensé de l'argent et il a réparé la chapelle. Il n'avait pas compris que c'était réparer l'église, mais il a commencé par rebâtir, enlever les, mettre les trous, enlever les brèches, réparer. Il n'a pas fait ça avec une seule. Il a pris au pied de la lettre, il est allé dans la ville voisine de Foligno, y vendre des marchandises de son père pour pouvoir restaurer une autre vieille chapelle. Et puis, il dépense l'argent de son père, d'ailleurs, qui n'était pas du tout content, et pour aller de chapelle en chapelle, comme ça. Et puis, alors son père là se fâche, hein, et il demande même à la justice, parce qu'il dit, mon fils dépense tout le fric là pour réparer des églises, ça ne va pas du tout. Et puis alors devant la place, devant la foule rassemblée, il y avait son père, il y avait les juges, et il dit ceci, « Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre, désormais je peux dire notre père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » Et là, il a tout rendu, il a rendu l'argent à son père, il s'est dénudé, parce qu'il avait, il n'y avait plus assez d'argent pour rendre tout ce qu'il avait déjà dépensé, il a enlevé ses beaux vêtements, et l'évêque, voyant cela, a couvert sa nudité, parce qu'il a dit, maintenant, je marche avec Dieu. Et ça a été quelque chose de radical. Et il a compris que sa destinée, c'était de réparer l'Église. Et en particulier par rapport à la richesse démesurée qui contrastait avec la pauvreté des gens, eh bien, il a contré l'esprit de richesse en disant, moi, je ne vais pas prendre ni sandales, ni deux tuniques, et je fais confiance à Dieu. Et donc il a vécu, il a fait, c'est le problème un peu des vœux de pauvreté, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était des actes prophétiques, dans le sens qu'on brise la richesse démesurée en montrant que suivre le Christ, ce n'est pas cela. Alors le problème, c'est qu'après on en a fait une vertu, la pauvreté. Ça c'est le problème. Mais le cœur de ce François, ce n'était pas ça. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a une implication entre le côté pratique et manuel de rebâtir l'Église et de restaurer. Et c'est ce que nous faisons là, c'est ce que nous tentons de le faire avec une vision plus large. Et ça commence toujours dans le naturel. Les grandes choses commencent toujours dans le naturel. Ne méprisons pas les choses qui sont dans le naturel. Parce que c'est toujours une grande première étape. Et alors, cette réformation qu'on voit, on voit une purification. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très fort chez Josias. Il commence à ôter les autels, les Baals, etc. Le Baal, c'était le dieu du pays. Alors, qu'est-ce que c'est le dieu du pays aujourd'hui en France ? Parce que les réveils, ça commence toujours par confronter les dieux du pays. Les dieux du pays, dans notre, on en a déjà beaucoup parlé ici, mais le dieu du pays en France, c'est l'humanisme. C'est l'homme qui est le centre et qui ne veut pas de Dieu. Ça, c'est le Dieu du pays. Donc, qu'est-ce que nous donne Dieu comme stratégie pour abattre le Dieu du pays ? Eh bien, il suffit de, partout où l'humanisme prend l'autorité pour dire et pour enseigner, eh bien, nous, on prend notre liberté pour dire ce que Dieu dit et enseigner autrement. Donc, le but, c'est de détrôner le Dieu du pays. Vous comprenez ? Et chaque pays a des dieux différents, des idoles différentes. Et en France, il y a quelque chose de très fort, et en Europe en particulier. Donc, quand on s'occupe, par exemple, d'école ou d'éducation, ça rentre dans ce contexte-là, de préparation de réveil, où Dieu dit, il faut détrôner les dieux du pays. Alors, il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Mais le dieu Baal était le premier ciblé par Josias, et ça a été ce dieu du pays qui l'a mis à terre. Rappelez-vous Gédéon, l'appel de Gédéon. Pareil, Dieu l'appelle. Est-ce que tout de suite, il s'est passé des choses. Non, il a fallu qu'il abatte les idoles de sa maison. Et les idoles même adorées par son propre père. Donc il a dû faire le ménage dans sa maison, et d'ailleurs et ensuite dans son petit village, pour qu'il puisse répondre à l'appel de Dieu. Donc on voit chez Josias, ce jeune homme, il s'est mis avec acharnement à battre les idoles. Donc c'est là qu'on voit l'appel, rappelez-vous l'appel de Jérémie. Chaque fois que Dieu appelle à construire, il appelle à détruire. Je t'appelle pour détruire, pour ravager, pour bâtir et pour planter. Et toujours les deux vont toujours en même temps. Et on en sait quelque chose ici. On avait une belle discothèque en bas. Et avec des beaux sanitaires, des belles lumières. Alors une moquette un peu abîmée. Et ils ont tout cassé. Qui c'est qui a tout cassé? Levez les doigts là. Christophe. Voilà. Parce qu'il faut tout casser avant de bien rebâtir. Et dans les normes et tout ça. Et ça on le voit dans le naturel. C'est pareil. Dans le spirituel, c'est pareil dans le spirituel. Alors vraiment, ça me fait drôle parce que tout ce qu'on vit ici, ça me parle toujours beaucoup. Et nous avons des principes spirituels ici. Alors, cette réformation, on voit aussi, c'est vraiment le résultat extraordinaire dans le chapitre qu'on a lu, mais aussi le suivant, qu'il y a vraiment un partage des différents ministères. Josias, c'est le roi. Il ne fait pas tout seul. Il va voir avec les sacrificateurs. Il va voir avec les Lévites. On a un travail d'équipe fondamental, phénoménal, dès le début du chapitre. Travail d'équipe, il n'est pas tout seul. Et c'est ce travail, les temps qui viennent, c'est dans le travail d'équipe que les choses peuvent se faire. Et chacun a sa place, chacun a ce ministère. On voit dans ce chapitre que vous aviez les artisans, vous aviez les directeurs des travaux, vous aviez les chantres, chacun a sa place. Le roi n'usurpait pas la place du sacrificateur. Le sacrificateur n'usurpait pas la royauté. Les problèmes dans l'histoire d'Israël, c'est quand le roi voulait être à la fois le sacrificateur, il voulait tout être, quoi. Et ça fait des problèmes. Mais chaque fois que chacun a bien compris ce que la Bible appelle le métrone, la mesure d'autorité, à ce moment-là, ça fonctionnait bien. Alors, quelques mots par rapport à cette notion de ministère que l'on voit bien à l'œuvre dans ce chapitre. Et j'aimerais une grosse parenthèse par rapport à ce mot ministre. Alors, vous savez, c'est un mot vraiment qui trompe, le mot ministre, ministère. Parce que c'est un mot qui a été, entre l'utilisation qu'il a eue au début de la première église, 33 après Jésus-Christ, et l'utilisation qu'on en fait maintenant, il y a vraiment tout un monde. Grammaticalement, ce mot-là, ministère, exercer le ministère, c'était un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Le mot ministre, nous, c'est pas forcément l'action, un ministère. C'est celui qui est. Il a une position. Mais dans la Bible, ce n'est pas une position. Dans la Bible, c'est un verbe d'action. Hein. Donc, tous les chrétiens de l'Église primitive avaient un ministère actif. Et bibliquement, tous l'ont aujourd'hui. Ministère actif, sérieux, fonctionnel, efficace, voyez, travaillant pour le Seigneur et pour le peuple. Alors, ce concept de ministre, qui a un ministère, c'est-à-dire une sorte de service spécifique dans le corps, s'appliquait à toute personne, tout chrétien, ça c'était très très clair. Chacun avait ce ministère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Conduire quelqu'un à Christ, aider les veuves, prier pour les malades, exhorter les autres saints, etc. C'est l'affaire de tous. Visiter les uns les autres, c'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de tous. Donc on a cette idée de nous avons tous un ministère qui repose sur l'action, l'engagement. Et voyez, ça faisait progresser le royaume. Alors vous savez l'histoire, c'est que ce mot, malheureusement, eh bien, le sens original a changé. Et puis petit à petit, c'est devenu pour un titre, une position, et une sorte de pour ceux qui accomplissent certaines activités, prêcher, baptiser, pasteuriser. Voyez, donc, et ça, c'est faux quelque part. Hein. Donc ministre fait référence à une personne aujourd'hui particulière, consacrée au ministère. Et du coup, il y a une sorte de scission entre les laïcs d'un côté et puis les religieux de l'autre. Et ça a été bien, bien malheureux. Théologiquement, ministre fait référence à tous les membres du corps, tous les membres du corps de Christ. Et ce n'était pas seulement une élite, mais tous les chrétiens, voyez. Et puis, une autre lunette, si vous voulez, c'est que je me suis intéressé au mot leader, ce qu'on traduit par leader en français, conducteur, chef, hein, dans l'Ancien Testament. Alors vous aviez, par exemple, le mot roi, Melek, le mot roi. Et ce mot roi, eh bien, c'est un mot qui est un peu neutre. Ce n'est pas forcément un méchant roi. Il peut y avoir des bons rois, bien que dans l'histoire d'Israël, il y ait souvent des méchants rois. Mais la plupart du temps, nous avons le terme, et ça c'est le terme tout à fait hébraïque, c'est de nagid, ça veut dire serviteur. Et les plus grands en position d'autorité dans l'Ancien Testament, Abraham, comment il est appelé ? Serviteur, nagid de Dieu. Moïse, comment est-il appelé ? Serviteur de Dieu. Josué, comment il est appelé ? Serviteur de Moïse. Et plus tard, serviteur de Dieu. C'est toujours le mot nagid. Les plus grands chefs dans la Bible étaient toujours des nagides, d'accord, des serviteurs. Samuel, serviteur de Dieu. David, serviteur de Saül, et plus tard, serviteur de Dieu. Élie, serviteur de Dieu. Ésaïe, serviteur de Dieu. Donc vraiment, ce mot-là est vraiment très important dans cette notion d'esprit de service, tout en étant dans une position de leadership. Et on a traduit ce mot, dans la même Bible, le même mot est traduit différemment. Par exemple, 1 Samuel, il est traduit par chef, 1 Samuel 9,16. Prince, 1 Chronique 12,27. Intendant, 1 Chronique 26,24. Commandant, 2 Chroniques 11,11. Donc, ce même mot, c'est quoi que souligne Dieu ? C'est que tout le monde a un ministère et il s'exerce dans le cœur de serviteur. Et plus il y a cet exercice, et plus on développe une autorité, et l'autorité de Dieu qui vient par le service. Alors, dans le livre qu'on a lu, rappelez-vous, au moment, alors tous les ministères travaillaient, imaginez-vous dans le temple, chacun selon ses talents, ses capacités, etc. Et au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur déjà trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Au même moment. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, hein? Souvent en France, on peut dire, mais c'est quoi le rapport? Est-ce qu'il y a un rapport d'abord? C'est le hasard sûrement. C'est le hasard. Au moment où ils apportent l'argent, tiens, on trouve le livre de la loi. Tiens, par hasard. Oh, un livre. Non, vous voyez, mais je crois que la parole de Dieu nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un rapport entre l'engagement de chacun dans ce temple à travailler, à le servir, l'engagement de chacun à faire ses offrandes, comme on a fait tout à l'heure, pour la maison de Dieu, pour son royaume, pour que ça multiplie, et le fait que la révélation de la parole de Dieu, elle vienne. Vous connaissez tous ce verset qu'on connaît tous par cœur, j'espère. Ta lumière est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière sur mon sentier, hein. Et je vous avais déjà dit, c'est pas une lumière sur ma chaise, c'est pas une lumière sur mon lit, c'est une lumière dans le sentier. C'est-à-dire, je marche, et quand je marche, alors que je marche, la lumière vient. Et c'est exactement ici. Ils travaillent dans le temple, ils apportent l'expression de leur amour pour Dieu sous forme matérielle. Et ça débloque un esprit de révélation. On retrouve le livre. Retrouver le livre pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on le lit, eh bien, quelque chose de nouveau. Et cette année 2012, je crois vraiment, moi je prie et je crois que Dieu, alors qu'on bâtit ici, alors qu'on travaille, Dieu veut nous donner une nouvelle révélation de sa parole et de son application dans tous les champs de la vie et dans tous les champs de la société. Alors, par rapport à ça, j'aimerais dire qu'un jour, c'est le leader de Jeunesse en Mission, hein, Lorraine Cunningham, et puis d'autres d'ailleurs, un jour il priait, assez récemment d'ailleurs, il disait, mais Seigneur, montre-moi ce que nous avons à faire, comment est-ce qu'on peut faire des nations des disciples. Comment est-ce qu'on peut toucher des nations, transformer des nations? Et alors, dans cette intercession, dans cette prière, eh bien, le Seigneur lui parle. Et il va dire la même chose à d'autres au même moment. C'est ça qui est important, la même chose au même moment. Et le Seigneur lui dit, voilà, il y a 7 domaines à toucher. Et tu peux faire de ta nation un disciple. Le domaine de la famille, le domaine de la religion, l'église, la mission, tout ça. Le domaine de l'éducation, le domaine de la célébration, les arts, le sport, les divertissements. Le domaine de la communication, les médias. Le domaine de l'économie, y compris le commerce, la science, technique, voyez. Et le domaine du gouvernement. Alors, on voit, chaque fois qu'on voit dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'un pays est devenu disciple, plus qu'avant, c'est que ces 7 domaines ont été touchés. Et si on prend par exemple, donc on prend le pasteur Oberlin, hein, 18e siècle, on peut voir sa vie, les 7 domaines étaient touchés. Vous pouvez prendre Calvin, vous pouvez prendre Martin Luther, peut-être un peu moins. Et j'aimerais prendre cet exemple d'un bâtisseur, et on termine par là, qui est un missionnaire. Quel est le premier missionnaire? Est-ce que vous connaissez le premier missionnaire protestant? Marie de Magdala. Premier missionnaire dans le protestantisme, par exemple. Non, c'est vrai. C'est une femme, les premiers missionnaires. C'est juste. C'est un Anglais. William Carey. Nous sommes au tout début du XVIIIe siècle. Avant, il n'y avait pas l'idée de la mission. C'était pas... Donc, ce William Carey, c'était un Anglais, un cordonnier. Cordonnier. Et ce cordonnier, il n'a fait aucune étude. Aucune. Mais seulement... Il savait faire les chaussures et autodidacte, il a travaillé sa parole et il a travaillé. Il aimait beaucoup les langues aussi, la linguistique. Alors il a travaillé et puis il est parti en Inde en 1793. Et alors l'Inde, vous savez, c'était très difficile. L'Inde était complètement emprisonnée. Rappelez-vous, c'est un pays où quand une femme perdait son mari, on brûlait les cendres, le corps du mari et on mettait la femme dans le feu. Et ça s'est fait encore assez récemment, ça. Hein. Donc, vous aviez aussi bon, tous les dieux hein, hindous, les fameux intouchables hein, qu'on laissait, etc. Donc, vraiment, 3000 ans d'hindouisme avaient amené une civilisation près de l'effondrement. Et alors, pas d'éducation, pas d'enseignement, culture de corruption partout. Et il fallait aller là. Et alors, ce qu'on voit chez lui, c'est que immédiatement, la transformation d'une région entière, et puis ensuite du pays, s'est faite parce que cet homme-là s'est investi dans ces 7 domaines. Et ça, c'est vraiment parlant. On retrouve toujours cette même idée. Il a réformé la famille, et en particulier... il a rendu illégal le meurtre des bébés non désirés, par exemple. Donc, il est allé jusqu'au niveau de légal, législatif, et il a fait basculer les lois. Et donc, par exemple, l'incinération vivante des veuves, ça a été arrêté en 1829. Donc, il a dû se battre. Ça n'a pas été tout de suite. Ça a été long. Et au niveau religion, bon, implantation d'églises, formation de disciples, et il a fondé un collège pour pasteurs, éducation des dizaines d'écoles, partout là, et puis des écoles pour même les intouchables, même pour les filles, ce qui n'était pas le cas, l'école, le collège de Serampore, la célébration au niveau des arts, alors il a remis, extraordinaire, il y avait une langue qui s'appelle le Bengale, et cette langue, le Bengali, était vraiment méprisée, et il a vivifié cette langue, et il a rendu fier les Indiens de parler cette langue, et au niveau de la composition littéraire, musicale, etc., il a encouragé fermement, il a revivifié toute cette langue. Il a créé un dictionnaire, le premier dictionnaire de sanskrit, il a travaillé dans les médias, l'impression, des journaux, et c'est comme ça qu'il a répandu la parole de Dieu, etc. Et l'économie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit l'idée des banques d'épargne. des banques d'épargne. Il s'est battu contre les taux d'intérêt pour que ça soit des taux raisonnables, etc. Et il a bâti une vision de l'économie différente. Donc imaginez, et au niveau du gouvernement, alors là c'était très spectaculaire, il a touché les plus grands, il y avait les Britanniques, hein, c'était la colonie britannique, il a pu toucher jusqu'au Parlement pour que les choses changent. Et ça a changé. Il a été secoué, hein, parce que ça n'a pas plu à tout le monde. Ça allait contre les intérêts de beaucoup. L'Angleterre, depuis 1600, elle était en Inde. Aucun changement, sauf qu'il se faisait de l'argent sur ce pays colonisé. Mais pas de transformation dans le pays. Il a fallu attendre cet homme de Dieu pour qu'enfin les richesses de ce pays reviennent à ce pays et qu'il commence une transformation. Donc, je termine là en disant, la parole de Dieu, elle parle sur tous les domaines et elle veut vivifier tous les domaines. Et en tant qu'Église, bien sûr, on ne veut pas courir après plein de chats à la fois, etc. On doit bien sentir, Seigneur, là où tu nous veux. Mais ayons la grande image et sachons nous investir et au moins avoir la pensée biblique de restauration par rapport à ces différents domaines. Le temps viendra où des gens demanderont « Comment est-ce qu'on peut faire ?» pour bénir les familles. Donnez-nous des idées. Comment est-ce qu'on peut faire au niveau de l'économie? Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai entendu dernièrement, aux informations, qu'il y a des... Ça sûrement, Denis, tu connais, mais des monnaies. On parle de la monnaie de l'euro qui tombe. Mais il semblerait qu'il y a des circuits au niveau d'entreprise où ils ont leur propre monnaie qui fonctionne très bien, etc. Il y a des idées comme ça qui... Hein, des régions entières, leur propre monnaie. Voilà. Donc, je crois que Dieu nous dit, la responsabilité que nous avons, c'est la restauration de toutes choses. Jésus est venu pour restaurer, me dit la Bible, toutes choses. Toutes choses. Il n'y en a pas une qui ne veut pas restaurer. Et donc, en tant que chrétiens, si nous sommes dans une église, si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est parce que nous sommes appelés des restaurateurs de chemins et de brèches. Et voyons ces antiques sentiers. C'est William Carey, c'est Oberlin, ces gens comme ça. Ces gens comme Josias, si jeune, mais quand il a trouvé la parole, il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de domaines où cette parole, il n'avait pas obéi à cette parole. Il y a tellement de domaines en France où cette parole, on a dit, il n'y en a pas besoin. Il y en a tellement de domaines. Et si nous, on croit que notre héritage, c'est le ciel seulement, je rappelle, on se trompe. Notre héritage, c'est la terre. Aussi, c'est notre nation et c'est tous ces domaines-là. Et en tant qu'Église, on a la prétention de relever ce mandat et de dire oui Seigneur, on ne sait pas comment, mais on y va. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait depuis un an, c'est absolument extraordinaire. Je vous rappelle quand même, 2011, petite rétrospective, on a vécu ce miracle d'être propriétaire de ce lieu. Est-ce que c'était imaginable il y a quelques années? Déjà pour le louer, on disait, mais comment on va faire? Alors bien sûr, louer en tout temps, on savait. Mais louer quand vous avez 10 fois qu'il faut payer. On était dans le petit réfectoire du collège Daniel, toute l'église réunie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tant de rentrées de dîmes, il faut multiplier par au moins 4, 5. Est-ce qu'on y va ou pas? Tout le monde a dit, go! C'est des fous quand même, des fous. Et alors, et maintenant, propriété, et maintenant Dieu dit, ce lieu je vous le donne, prenez-en soin, bâtissez, faites le meilleur, parce qu'à partir de ce lieu-là, je veux lancer des flèches, comme on en a lancé ce matin avec Jean-Daniel et d'autres, pour toutes les nations, et être un lieu de bénédiction pour cette région et pour notre pays. Seigneur, merci pour ces temps de réveil, de réforme, ces temps de Josias. Tu donnes dans nos cœurs de te chercher. Tu nous fais retrouver le livre, Seigneur, alors qu'on apporte nos offrandes de louanges, d'adoration et d'offrandes matérielles. Tu nous révèles, Seigneur, les trésors de ta parole, qui nous donne les principes de restauration pour tous les domaines où nous sommes impliqués, Seigneur. Merci, Jésus. Nous appelons ta bénédiction sur 2012. Nous disons que l'esprit de révélation nous saisisse, Seigneur, et que nous puissions obéir à ce que tu nous révèles dans le nom de Jésus. Affermis ce que tu as déjà fait au milieu de nous, Seigneur. Et puis étends nos cordages cette année, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.